Vous écoutez, on lit pour vous.
Les femmes peuvent-elles tout avoir? Un texte de Véronique Larocque, paru le 2 septembre 2025 dans la presse. Deux semaines après avoir donné naissance à sa fille, Fanny Rainville était de retour en studio de doublage. Alors que son poupon n'avait que 4 mois, elle remontait sur les planches. J'avais une image idéalisée que j'allais pouvoir tout faire, admet la comédienne. La fatigue l'a rattrapée. Cette période vécue il y a 13 ans a nourri chez elle une grande réflexion sur la conciliation travail-famille. Est-ce que nous, les femmes, pouvons tout avoir? La carrière et la maternité? Si oui, à quel prix? Demande-t-elle dans le livre Maman est partie travailler, paru fin août 2025. Pour cet ouvrage, Fanny Rainville a fait équipe avec sa cousine, la psychologue Marie-Laurence Génier. Le duo a rencontré 22 femmes, parmi lesquelles plusieurs personnalités publiques, dont Kim Thuy, Bianca Gervais, Chloé Robichaud et Marwa Rizki. On voulait vraiment une variété de femmes, d'expériences, d'âges, de cultures, de familles différentes, explique la comédienne, scénariste et autrice, à qui l'on doit notamment le roman « Les Insoumises ». Parmi celles qui témoignent, certaines ont choisi de prendre une pause après l'arrivée de leur enfant, d'autres non. Chez les femmes qui ont arrêté, on remarque, quand on creuse, que ça a eu des impacts importants sur leur carrière. À l'inverse, quand on regarde les femmes qui ont décidé de continuer, on observe une fatigue qu'elles traînent à travers les années, note Marie-Laurence Génier, qui a accouché de sa première fille en mars 2025, 2 jours après avoir remis le manuscrit de « Maman est partie travailler ». Obstacle. La fatigue, le déséquilibre hormonal et la culpabilité maternelle sont quelques-uns des obstacles à la conciliation travail-famille identifiés par les femmes rencontrées. Peu importe ce que tu fais, tu ne gagnes jamais. Tu travailles, tu as le mom guilt. Tu es avec ton enfant, tu te dis que tu manques quelque chose au travail. Résume dans son témoignage au sujet de ce dernier point Mel Charlot, chorégraphe et juge à l'émission Révolution. Sans surprise, la charge mentale est aussi un enjeu que l'on retrouve dans la plupart des récits. Il n'y a pas une femme qui a dit que son chum ne fait rien, mais des inégalités ressortaient, dit Fanny Rainville. En plus des témoignages, le livre aborde différentes notions, dont l'une que Marie-Laurence Génier trouve particulièrement intéressante, la « mommy track ». C'est un concept qui est de plus en plus étudié dans la littérature et qui démontre à quel point, quand une femme a un enfant, ça a un impact au niveau des opportunités de carrière, du salaire, des horaires. Des fois, je me demande si j'aurais la même carrière « si j'étais un homme », dit d'ailleurs l'animatrice Geneviève Peterson dans l'ouvrage. Piste de solution. À travers les témoignages du livre, on constate que la conciliation travail-famille représente tout un défi pour les mères. Quelles sont les pistes de solution à explorer? Il n'y a pas une solution unique pour toutes les femmes. Je pense que la première piste, c'est d'être à l'écoute des besoins de chacune, répond Marie-Laurence Génier en notant que ces besoins peuvent évoluer dans le temps. Selon elle, de nombreuses mesures peuvent être mises en place, comme les horaires flexibles, le télétravail ou les congés parentaux bonifiés par l'employeur, toutes des mesures pouvant bénéficier au père également. Selon leurs observations, est-ce que les femmes osent demander des accommodements? Ça varie beaucoup. Bianca Gervais, dans le livre, dit « Travail, comme si tu n'avais pas d'enfants. Aie des enfants, comme si tu ne travaillais pas et, idéalement, aie un corps comme si tu n'avais pas eu d'enfants. » Je trouve qu'on est encore beaucoup là-dedans, se désole Marie-Laurence Génier. Pour les femmes et les hommes, si elles ont fait le choix de ne donner la parole qu'à des femmes dans leur ouvrage, les deux autrices croient tout de même que les pères gagneraient à le lire. Ça va pouvoir susciter de belles discussions au sein des couples, croit Fanny Rainville. En terminant, quelles conclusions tirent-elles de leurs 22 rencontres? À la grande question, est-ce que les femmes peuvent tout avoir et si oui, à quel prix? On se rend compte que c'est peut-être possible, mais on doit être prête à faire certains sacrifices, résume Marie-Laurence Génier. Aperçue en 3 extraits, Bianca Gervais, actrice. Au premier enfant, on a un désir d'exceller, de se mettre des étoiles dans notre cahier. Le « good enough mom » est un concept super intéressant, mais moi, je l'ai toujours refusé. Je voulais être une superstar mom. Si c'était à recommencer, je me donnerais un break. Marois Risky, députée. Une chose qui me fâche, c'est l'appauvrissement des femmes pendant leur congé de maternité. Plusieurs de mes amies avocates ont vu leur poste être coupé à leur retour. Ces femmes ne portent pas plainte, parce que sinon, qui va les engager dans les grands bureaux après ça? Personne. Marie-Claude Barrette, animatrice. Je trouve que les mamans doivent délester. On ne peut pas tout faire. On se compare aux autres. Certaines osent même porter des jugements. Est-ce qu'on peut se sacrer la paix, les filles? On rush toutes. C'était « Les femmes peuvent-elles tout avoir ?» un texte de Véronique Larocque, paru le 2 septembre 2025 dans la presse.
Camping sous les étoiles au Mont Ham. Un texte de Sabrina Lucas, paru dans Rando Québec à l'été 2022. Ce soir, je pars embrasser ma solitude au cœur de la montagne, là où le ciel est vaste et où la terre enracine mes pas. Ce soir, je dors sous les étoiles, l'univers au-dessus de moi. Ce soir, je pars écouter l'esprit du vent à travers les épinettes et le chant des bruants. Rien d'autre que moi et le temps. Il y a maintenant plusieurs mois que j'ai écrit ces mots, alors que j'allais vivre, lors d'un été, l'expérience d'une nuit de camping au sommet du mont Ham. Cette montagne, qui surplombe la région des Cantons de l'Est avec ses 713 mètres d'altitude, je la connais presque par cœur, pour l'avoir montée des dizaines de fois, mais elle reste toujours aussi surprenante et c'est toujours avec beaucoup d'humilité que je foule ces sentiers car, ici plus qu'ailleurs, se fondent le regard et le cœur. Boris Vian. J'ai préparé mon sac à dos, fixé ma tente et mon sac de couchage. Le soleil est haut et chaud lorsque je commence ma montée par l'Intrépide. C'est le milieu de l'après-midi. J'ai prévu plusieurs litres d'eau, un petit réchaud, mon repas pour le soir, du café, du thé, de quoi grignoter, un bouquin et mon carnet. Comme toujours, je suis concentré sur mes pas. Je prends mon temps, j'observe beaucoup, j'écoute, j'attends. Il n'y a pas d'urgence à atteindre le sommet qui ne va pas s'enfuir, lui. J'aime sentir la respiration de la forêt, sa transpiration. Suivre son rythme sourd et profond. Plus que tout, j'aime m'endormir dans ses bras. Bivouac, nom masculin du suisse-allemand Biwatch, garde supplémentaire de nuit, campement sommaire, temporaire et léger qui permet à une ou plusieurs personnes de passer la nuit dans un milieu sauvage. Bivouaquer, c'est se délester de tout pour revenir à l'essentiel, à la façon la plus simple que nous avons de vivre en ce monde. C'est se reconnecter avec l'espace, la nature, les éléments qui nous entourent. N'avoir rien d'autre que soi à gérer dans cet espace sauvage. En l'occurrence, nous sommes plusieurs à monter notre tente au sommet ce soir. Je ne serai pas seul dans cette aventure puisque plusieurs ont aussi réservé leur nuit dans le cadre de l'activité proposée par le parc. Je ne serai pas seul, mais néanmoins solitaire. Le sommet du mont Ham, comme la plupart des parcs, a le statut de refuge biologique et le camping sans trace y est pratiqué. Une fois là-haut, je choisis un emplacement tranquille, retiré, d'où je pourrai contempler le coucher du soleil. J'ai l'embarras du choix, ma petite tente ne prenant vraiment pas de place. Et puis, je me réserve le choix de dormir à la belle étoile si la température le permet. L'air est doux et, par chance, le ciel est dégagé, la brise légère. Je referme sur moi ma veste de laine et pars explorer les environs depuis ce sommet à 360 degrés. Rallumer les étoiles. Il y a quelque chose de magique à dormir au sommet d'une montagne. Alors que les tentes se dressent une à une au creux du massif, l'après-midi s'achève lentement. Et le feu de camp marque le point de ralliement de tout ce beau monde rassemblé autour d'une même passion, la nature. L'ambiance est au rire, aux échanges et à la contemplation. Certains partagent leur repas et des anecdotes autour du feu, pendant que d'autres savourent la paix du moment, perchés sur une roche. Chacun trouve sa place. Son instant présent, le meilleur emplacement pour un soleil couchant qui glisse lentement dans son lit à l'horizon, sous la fine couche de nuages. Puis, peu à peu, les voix se taisent à mesure que les étoiles apparaissent dans le ciel. Allongé dans l'herbe sur une couverture, j'admire le spectacle de la voûte céleste au-dessus de moi. La courbe du temps s'est noyée dans celle de l'espace. Je me sens infinie poussière, âme poétique au cœur de l'univers. Dans le lointain, j'entends l'écho des voix à chaque apparition filante. Ici, là, regarde! Campé au sommet, une expérience unique à préserver. Depuis quelque temps déjà, de nombreux randonneurs recherchent la tranquillité et l'émerveillement que peuvent procurer les couchers et levers de soleil au sommet de nos montagnes québécoises. Il est vrai que, pour celles et ceux qui ont eu la chance de dormir un peu plus proche des étoiles, l'expérience est inoubliable. Malheureusement, c'est aussi une activité qui représente aujourd'hui une des plus grandes menaces pour la sécurité, la qualité de l'expérience et l'équilibre écologique du milieu. En effet, le milieu se voit confronté à plusieurs facteurs pouvant lui nuire. La multiplication de cette pratique dans des lieux n'étant pas prévue à cet effet, le niveau de préparation aléatoire des pratiquants, une mauvaise gestion des déchets et de l'emplacement du bivouac, la mise en danger de l'habitat par la prolifération des feux à ciel ouvert. Emmitouflés dans nos couvertes, chacun se laisse bercer puis endormir par le bruissement du vent et la danse des constellations au-dessus de nos têtes. Magie. Avec la nuit vient le sommeil léger et vigilant. Les sons sont amplifiés et le moindre craquement me fait sortir de ma rêverie. À 4 heures du matin, au premier chant d'oiseaux, j'ouvre ma tente et sors accueillir les premiers rayons du soleil sur l'autre versant. Je suis chanceuse. Une fois encore, le spectacle est de toute beauté. Je pourrais rester ici toute ma vie. J'avale une première gorgée de café au goût d'éternité avant que ne commence cette nouvelle journée. Le temps de replier mes affaires, de faire le tour de mon bivouac pour vérifier que je n'ai rien laissé, et je repars en matinée, sac au dos, sourire aux lèvres, plus vivante et plus libre, sur la panoramique. Plus d'infos pour le camping au sommet du parc régional du Mont Ham, montham.ca/camping-au-sommet. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter? Vérifiez auprès du gestionnaire de territoire la possibilité de camper au sommet ou même de randonner de nuit. S'assurer d'avoir les compétences et le matériel adéquat pour réaliser l'activité. N'utilisez que des surfaces durables pour installer son bivouac et pour se déplacer sur les sommets qui sont souvent plus exposés et fragiles. Gérez adéquatement ses déchets en adoptant les principes sans trace. https://sans-trace.ca/ressources/. Ne jamais faire de feu à ciel ouvert, sauf dans les emplacements officiellement prévus à cet effet et en respectant les recommandations émises par la SOPFEU. https://sopfeu.qc.ca/. C'était « Camping sous les étoiles au Mont Ham », un texte de Sabrina Lucas, paru dans Rando-Québec à l'été 2022.
Les commerces ont-ils droit à des déductions fiscales pour vos dons? Un texte de Roxane Léouzon, paru le 12 mars 2024 dans Le Devoir. Certains commerces sollicitent des dons lorsqu'advient le paiement de notre facture. Est-ce que ces entreprises ont droit à des déductions fiscales pour les dons recueillis auprès de leur clientèle? Se questionne Michel Mathieu. Voulez-vous donner 2 $ pour aider les enfants malades? C'est le genre de proposition que peuvent vous faire la caissière ou la borne de paiement en libre-service de votre épicerie. Si votre générosité prend le dessus à ce moment-là, le petit ours polaire ira normalement garnir un compte dont le solde total sera remis à l'organisme de bienfaisance concerné, parfois la propre fondation de l'entreprise. Pour un si petit don, cet organisme ne vous remettra pas de reçu officiel donnant droit à un crédit d'impôt. Mais qu'en est-il du magasin qui a récolté et transmis la cagnotte constituée de tous les dons de ses clients? La réponse de l'Agence du revenu du Canada est claire à ce sujet. Ce sont les clients qui font les dons et non le magasin de détail. Par conséquent, puisque les clients sont les vrais donateurs, le magasin de détail n'aurait pas droit à un reçu lorsqu'il remettrait l'argent collecté à l'organisme de bienfaisance. Centraide du Grand Montréal, qui a un partenariat avec Métro, explique recevoir du détaillant des sommes séparées selon qu'elles proviennent des clients, des employés ou de l'entreprise elle-même. Quand c'est des dons provenant de plein de personnes différentes, on ne peut pas faire un reçu global à l'entreprise pour ça, explique Maude Doualan, vice-présidente au développement philanthropique pour Centraide du Grand Montréal. Avantageux. Pour les organismes de charité, ce genre de don est avantageux, puisqu'ils n'ont aucun effort de sollicitation à faire eux-mêmes et qu'ils n'ont pas de reçu fiscal à produire. Cette stratégie engendre peu de frais de gestion. Ça nous permet d'aller poser la question à des personnes qu'on ne rejoindrait pas autrement. C'est une belle visibilité pour notre cause, ajoute Maude Doualan. C'est le même son de cloche du côté de Mission Inclusion, autrefois connue sous le nom de l'Œuvre Léger. L'organisme s'est déjà associé à des commerçants qui ont ramassé des fonds pour ces projets humanitaires et communautaires dans le cadre de la campagne « Mardi, je donne ». Mission Inclusion s'est aussi lancée dans un autre modèle nommé « Marketing de cause » en collaboration avec Boustan. La chaîne de restauration rapide s'est engagée à remettre 50 cents à l'organisme pour chaque repas pour enfants vendu. Ce qui est intéressant, c'est que le commerçant peut obtenir un reçu fiscal, contrairement aux dons à la caisse, indique Isabelle Morin, directrice principale du développement et des communications pour Mission Inclusion. Boustan s'est beaucoup servi de ça pour mettre en avant sa responsabilité sociale d'entreprise, a-t-elle ajouté. Une question d'image. En pratique, il n'y a pas de mécanisme de vérification rigoureux qui empêcherait les entreprises de s'approprier l'argent récolté auprès des clients et les organismes de leur remettre un reçu aux fins d'impôt pour cette somme, selon François Brouard, professeur de comptabilité et fiscalité à l'Université Carleton. Mais il y a un grand risque que la situation soit dénoncée et que cela nuise à la réputation de l'entreprise. Je ne suis pas sûr que ce sera une bonne idée de prendre ce risque, surtout pour une entreprise qui a une certaine stature dans la communauté, étant donné que le bénéfice est ailleurs. Il est dans le gros chèque qu'elle va mettre en avant dans ses communications, a indiqué M. Brouard. Pour les entreprises, l'intérêt serait essentiellement une question d'image, croit-il. Il a tout de même un conseil à transmettre aux donateurs individuels. Si vous donnez 2 $ chaque fois que vous faites l'épicerie, fiscalement parlant, vous seriez mieux de donner une fois par année 100 $ à la fondation de votre choix. Vous pourrez ainsi recevoir un crédit d'impôt si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'était « Les commerces ont-ils droit à des déductions fiscales pour vos dons ?» un texte de Roxane Léouzon, paru le 12 mars 2024 dans Le Devoir.
Portrait dodo des ados. Un texte commandité paru le 2 septembre 2025 dans la presse. Tout au long de l'adolescence, le cerveau est en pleine ébullition. Il est appelé à gérer la croissance, l'humeur changeante et les attentes grandissantes, tant à l'école qu'auprès de l'entourage. Pourtant, tout indique que beaucoup de jeunes peinent à dormir suffisamment pour combler leurs besoins élevés en énergie. Voici ce qui pourrait expliquer cela, ainsi que quelques astuces favorisant des nuits réparatrices. Besoin de sommeil et changement biologique. La plupart des ados ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil par nuit. C'est la plage recommandée par l'Agence de la santé publique du Canada pour soutenir adéquatement les importantes transformations qui s'opèrent dans le corps et le cerveau des 14 à 17 ans. Le sommeil joue un rôle crucial pour la croissance, l'humeur, la mémoire et l'apprentissage, autant d'éléments essentiels au développement des jeunes. Les besoins exacts peuvent cependant varier d'une personne à l'autre. Des ados dorment un peu moins, d'autres davantage, selon leur métabolisme unique. Le sommeil n'est pas qu'une question d'heures. Même en dormant assez longtemps, votre ado pourrait s'éveiller d'humeur maussade, avoir de la difficulté à se concentrer et ressentir de la fatigue en raison d'un sommeil de mauvaise qualité. Divers facteurs peuvent couramment perturber le repos à cet âge, comme la liberté de se coucher et de se lever tard le week-end, l'usage intensif des réseaux sociaux et le stress associé à un horaire chargé, entre les travaux scolaires, les activités, les sorties et peut-être un emploi étudiant. Beaucoup d'ados vivent selon un horaire décalé. À l'adolescence, la plupart des jeunes subissent un décalage de leur rythme circadien, l'horloge biologique qui régule le sommeil et l'appétit, qui peut retarder la production de mélatonine d'une à trois heures. Ce changement fait en sorte que beaucoup d'ados ne s'endorment naturellement que tard, en soirée, même lorsqu'il faut se lever tôt le lendemain. Résultat, l'heure du coucher recule, mais l'horaire scolaire, lui, ne bouge pas. Ce contexte entraîne souvent une dette de sommeil qui tend à s'aggraver. Les ados ressentent la fatigue un peu plus tard. En plus du rythme circadien, un autre système de régulation évolue durant l'adolescence, l'homéostasie du sommeil. Ce mécanisme, qui équilibre l'éveil et les besoins de sommeil pendant la journée, ralentit, ce qui retarde l'apparition de la somnolence. Combiné au décalage circadien, ce phénomène maintient l'esprit en alerte jusque tard, en soirée, mais le rend peu coopératif le matin venu. Au Québec, environ un ado sur deux ne dort pas suffisamment. La plus récente enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2022-2023, rapporte que pendant la semaine d'école, 48,1% des élèves du secondaire dorment moins que le nombre d'heures recommandées. Ce problème est d'ailleurs plus prononcé chez les filles, 52,1%, que chez les garçons, 44,4%. Il s'agit également d'une détérioration marquée comparativement à l'enquête précédente de 2016-2017, où la proportion d'élèves dormant peu s'élevait à une personne sur trois, 34,1%. Conseil pour aider votre ado à dormir. Suivre un horaire de sommeil régulier, même la fin de semaine. Cette habitude aide à régulariser le rythme circadien. Ne pas faire ses devoirs ou consulter son téléphone dans le lit. N'utiliser le lit que pour dormir renforce son association au sommeil plutôt qu'au stress et aux sources de stimulation. Prendre une douche chaude une heure avant d'aller au lit. Ce contraste de température reproduit un signal naturel du sommeil et favorise l'endormissement. Se détendre pendant l'heure précédant le coucher. Votre ado pourrait, par exemple, prendre l'habitude de tamiser les lumières, puis de lire ou d'écouter de la musique pour apaiser son cerveau. Il est recommandé d'éviter les écrans, oui, même son téléphone intelligent, pendant cette période, car leur lumière bleue nuit à l'endormissement. Évitez les boissons énergisantes en fin d'après-midi et en soirée. Une canette de format moyen peut contenir autant de caféine qu'une tasse de café, soit assez pour perturber le sommeil jusqu'à 10 heures plus tard chez certaines personnes. S'exposer au soleil tôt le matin. La lumière naturelle aide à synchroniser le rythme circadien avec le déroulement naturel des journées et à s'endormir au moment opportun. C'était Portrait dodo des ados, un texte commandité paru le 2 septembre 2025 dans la presse.